Et maintenant, c'est l'heure de votre feuilleton hebdomadaire. Jour à neige, jour à peine. Feuilleton radiophonique écrit par Jean-Michel Asse, interprété en alternance et selon humeur par Didier Rexach et Jean-Michel Asse. Diffusé tous les vendredis de l'été à 21h sur Radio Bartas. Juste pour mémoire, quand on les a quittés, ils allaient se coucher. On a profité de leur sommeil pour vous exposer le listing des personnalités du château. Je cite au hasard, Madeleine la Siffleuse, Gaspard le Pleutre, René le Grand, Martin le Chauve et surtout Frère Restosec qu'on va croiser souvent dans ce récit. Premier jour, pluie. Deuxième jour, pluie. Troisième jour, c'est sous une légère pluie que nous atteignons la grande rivière qui fait frontière avec les barbares. Alors on voyage à la vitesse des mules. Une heure à pied, une heure sur les bêtes. Au bout de trois jours, je n'ai pas encore décidé si je préfère marcher ou monter. Mais je suis sûr, je déteste la pluie. Comme on s'installe pour la nuit, trois silhouettes sortent de la brume qui commence à monter de la rivière. Trois femmes. Ce sont nos druides, gardiennes de la source. On se salue, on s'étonne de se voir si loin de chez nous. Elles nous demandent si on est perdu, tout. Comme la nuit tombe et le feu allumé, on leur propose l'hospitalité. Elles nous font un infâme brouillet avec des plantes qu'elles ont ramassées. Pourquoi pas, hein ? Au moins ce sera chaud et heureusement on a du sel. Pour agrémenter la soupe, on fait griller les poissons qu'elles ont pêchés. Pour nous, c'est un festin parce que le poisson de rivière, c'est pas tous les jours au menu. Le chasseur s'occupe des bêtes, le moine prend langue avec une de ses dames, on échange des nouvelles. Ouais, j'explique le pourquoi du comment que nous sommes là, et elles font de même. Elles viennent souvent par ici pour trouver des plantes qui ne poussent pas ailleurs. Elles me disent les noms que j'oublie immédiatement. À cet instant, sur la rive opposée, trois barbares s'arrêtent pour faire boire leur monture. Ils nous crient quelque chose que je ne comprends pas. Les druides répondent en faisant des signes d'amitié. Après avoir palabré en criant pour couvrir le bruit de l'eau, ces messieurs tournent bride et disparaissent dans la forêt. Comme je m'étonne, la plus vieille explique que leur langue ressemble beaucoup à un ancien langage encore en vigueur quand elle était jeune. Je fais remarquer qu'ils n'avaient pas l'air belliqueux. Mais elle les voit souvent quand ils viennent par ici, et il est même arrivé quand la rivière est basse qu'ils se retrouvent sur la même rive. Ça m'embouche un coin, hein, parce qu'au château, les barbares n'ont pas bonne presse. J'ai bien compris qu'on les dit barbares parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Mais en dehors de ça, ce sont des inconnus. Les druides expliquent que pour eux, nous sommes des méchants, prétentieux, orgueilleux, et qui se croient supérieurs sous prétexte qu'on aurait un seul dieu. On discute des choses de la vie, même le chasseur participe. Ce qui m'étonne parce que c'est un taiseux. Il s'économise en paroles, je pense qu'il en garde sous la langue pour ses vieux jours. En m'endormant, je réfléchis au fait qu'on ne voit pas les gens de la même manière qu'ils sont ailleurs que chez eux. Pour preuve, si on m'avait dit que le moine et une des druides s'isoleraient pour la nuit, je l'aurais jamais cru. Pourtant, c'est ce qui se passe. On les reverra qu'au matin pour le petit déjeuner. Toilette de chat dans la rivière, un casse-croûte avant de se quitter et nos chemins se séparent. Nous, on remonte le courant, elles repartent vers la source miraculeuse avec leur récolte de simples. Après une heure ou deux de marche sur la rive, juste après un grand méandre, alors que la rivière entre dans des gorges plus étroites, on bifurque plein sud. On pénètre dans une belle forêt de hêtres, les arbres en lisière sont tordus par les vents, et plus tu t'enfonces dans le bois, plus ils s'élancent vers la lumière, droits comme des piliers d'église. Le soleil pénètre de moins en moins, et on se retrouve bientôt dans une fraîche pénombre, marchant sur un lit de feuilles sèches. Au bout d'une heure, l'ambiance devient un peu angoissante. À ce moment-là, le chasseur nous prévient à voix basse qu'on est suivi. J'ai beau scruter les bois, je ne vois rien. Je le crois. Ami ou ennemi, à ma connaissance, cette forêt n'est pas dangereuse. Mais comme elle est assez éloignée du château, je ne jurerai de rien. Le chasseur nous fait signe de continuer sur le semblant de sentier et il disparaît dans une petite ravine. Le moine, pour faire diversion, entonne en sourdine un cantique. 10 minutes ne sont pas passées qu'un sifflement nous fait arrêter. Le chasseur surgit de nulle part, tient au collet un môme d'une dizaine d'années qui lui-même tient deux lapins par les oreilles. Je vous présente Claude, la terreur des lapins, fils de charbonnier. Il va nous guider chez lui. Il faut dire que personne ne passe dans cette forêt. Alors le môme qui relevait ses collets a été intrigué. Il nous a suivis. On rend sa liberté au gamin, le chasseur lui demande de nous guider et peu de temps après, on débouche dans une grande clairière. Deux, trois huttes, des poules, des cochons, le tout dans la fumée des meules de bois qui charbonnent. Un homme pétasse les fuites avec de la boue, un autre commence à démonter une meule encore fumante, un troisième aidé des femmes construit une nouvelle meule. On se présente. Le gamin donne à sa mère les deux lapins qui ont vite fait d'être dépouillés. Celle qui paraît être la patronne, la plus vieille, explique qu'une meule est finie et que l'autre finira cette nuit et que la troisième, sitôt construite, va être allumée. Comme par enchantement, 4-5 enfants sortis de nulle part, tout aussi noirs les uns que les autres, nous entourent. Que des garçons. Comme je m'en étonne, le chasseur dit qu'il m'expliquera plus tard. Les femmes sont 4. La patronne est veuve, son mari tué par un sanglier à la saison des champignons. On laisse les enfants s'occuper des bêtes, on s'installe dans une espèce d'appentis, le moine demande aux femmes s'il peut aider. On l'envoie sous la conduite d'un môme chercher l'eau au ruisseau. Le chasseur discute avec les charbonniers. On apprend que demain, deux charrettes viendront chercher le charbon pour les mines. Le repas se prépare. Heureusement que l'on a un peu de provisions parce que chez eux, c'est régime. Ils n'ont plus de pain, pas de vin, on leur laisse les deux lapins et on finit nos réserves. On suivra le voyage du charbon au château de Bertrand Pleutre pour se réapprovisionner. On dîne en échangeant des informations, on leur explique la vie au grand château, comme ils disent. Les enfants demandent comment on devient religieux, faisant rougir le moine de plaisir. Un des hommes propose son fils pour aiguiser notre hache et nos couteaux, et la nuit tombe doucement. Le chasseur donne à la patronne une fiole d'onguent que les druides avaient préparée pour les charbonniers au cas où on tomberait dessus. Hommes et enfants se retirent, les femmes débarrassent la table. Enfin, c'est une image, il n'y a pas de table. Un dernier coup de quinquet et deux de ces dames nous proposent leur service. Le chasseur et le moine sont partants. Personnellement, j'ai une éthique, je ne paye jamais pour coucher. Pour être tout à fait honnête, j'ai le cul cassé par les séances d'équitation. On dira ce qu'on voudra, mais le cheval, c'est pas mon métier. Le moine me sidère, je ne le connaissais pas sous cette facette. C'est vrai qu'au château, les moines sont plutôt au profil bas, et puis si ça se trouve, c'est sa méthode pour évangéliser les campagnes. Je reste avec un des hommes qui m'explique la fabrication du charbon de bois. Alors, il coupe le bois, le ramène dans la clairière. On commence par le petit bois et des brindilles autour d'un poteau central. Ensuite, on place les bouts de bois bien droits autour du poteau. On couvre le tas ainsi formé avec de la terre et de la mousse. Quand c'est fini, la meule doit avoir la forme d'un dos de tortue. Pour allumer, on retire le poteau central, on jette des braises, on rebouche le conduit avec un bout de bois. On laisse brûler entre 36 et 48 heures. Il faut surveiller tout le temps que la meule ne s'enflamme pas entièrement. Pour obtenir 10 sacs de charbon, il faut brûler 12 terres de bois. Sur ce, on se sépare. Personnellement, je me coucherai moins bête. Je vais voir si les mules vont bien, me trouve un abri dans une haie, m'installe pour la nuit. Le temps de trouver le sommeil, la forêt s'éveille. C'est fou le bordel que font les nocturnes. Alors le grand-duc croit qu'il est chez lui, les petits rongeurs trottinent sans faire de bruit, résultat on n'entend que. Une harde de sangliers bouffe comme des cochons, etc., etc. Au matin, très tôt, le chasseur part avec un des enfants. Comme je m'en étonne, il m'explique qu'il y a quand même un minimum, il faut payer la nuit avec ces dames. Toute peine mérite salaire. Quand il reviendra avec un chevreuil sur les épaules, il le donnera à la vieille qui gère les affaires de cette petite communauté. En attendant que les chariots soient là, je donne un coup de main comme je peux. En gros, on remplit des sacs avec le charbon de bois. Ça demande pas une grande intelligence, mais ça s'allie. Au deuxième sac, t'es noir. Au quatrième, tu ne te rappelles même plus avoir été blanc. Le moine n'aide pas, mais regarde de loin avec attention et prends des notes. Il faut quand même qu'on fasse notre boulot. On compte les gens, les bêtes, les habitations et tout et tout. Quand les chariots sont là, on les charge. On avait mis en sac l'équivalent de 2 meules. La troisième a presque fini de brûler. On la travaillera cette nuit et les chariots prendront le chemin du retour aux premières lueurs de l'Est. J'ai vaguement réussi à faire toilette. Je suis plus noir mais gris. Un cuisseau de chevreuil agrémente notre souper. Les bouviers se couchent à côté des bêtes. Chacun se trouve son nid pour la nuit et le marchand de sable passe. L'Orient rougeoie à peine quand le convoi s'ébranle. Ça ne va pas vite et c'est pas pour me déplaire. On a le temps d'admirer le paysage. La vitesse de croisière est parfaite pour les mules qui sont attachées au dernier chariot. Nous, on suit à pied tranquillement. On est assez près du château de Bertrand le Pleute pour que des malfaisants ne se manifestent pas. Une matinée de marche et nos routes divergent. Comme on croise la voie romaine, les bouviers continuent sur le chemin et nous, on prend à droite, direction le château, à 2 heures de marche. Les mules sont moins contentes car on les monte de nouveau. Le soleil s'y est mis, on se croirait en promenade. Le paysage est parsemé de boules de granit qui affleurent. Dans les choses remarquables, j'ai noté la diversité des roches sur ce territoire. Tu as l'impression de passer continuellement du granit au schiste, du schiste au calcaire, et on recommence. Granit, schiste, schiste, calcaire, etc. C'est comme les forêts, châtaigniers, chênes, hêtres. On n'a pas encore vu de bouleau depuis qu'on a laissé les frênes au bord de l'eau. Une petite montée et le château apparaît en contrebas, blotti dans un méandre de la rivière. C'est la même rivière qu'on a quittée l'autre jour plus en aval avant le défilé. Je sais, on donne l'impression d'avancer en zigzag, et c'est un peu vrai. Faut pas oublier qu'on n'a pas de carte, que le chasseur ne connaît pas tout, qu'on n'est pas pressé et qu'on visite. Donc le château nous apparaît dans toute sa majesté. Contrairement au château d'où on vient, celui-là fait plus château, avec remparts, tourelles d'angle, donjons et raffinement suprême, un pont-levis. Pont-levis que nous empruntons pour entrer dans la cour. Pourquoi Bertrand le Pleute aurait un vrai château alors que son suzerain, Pénélope reine Frédérune, n'en a pas? J'en sais rien, juste que ce château défend le gué sur la rivière et la voie romaine qui, d'après les on-dits, est là depuis très longtemps. Il aurait été construit sur les ruines d'une ancienne place forte romaine. Il serait passé dans plusieurs mains de nobles et pour finir, le père de Bertrand le Pleutre, Gontran le Fonceur, en aurait hérité par donation royale pour sa bravoure dans une guerre il y a longtemps, à l'époque où il y avait toujours des guerres. Gontran a eu 3 fils, l'aîné est mort à la suite d'un pari stupide. Il a voulu traverser la rivière gelée, la glace a cédé, il s'est noyé. Le plus jeune est entré dans les ordres au monastère du Monastier et le dernier était destiné au métier des armes. À la mort du papa, le soldat Bertrand le Pleutre a hérité du titre et du château. Ce qu'il a bien arrangé vu que le métier des armes ne lui réussissait pas. Il avait reçu un coup de lance auquel il avait survécu mais qui avait touché une glande importante. Depuis, il est grassouillet et monte à cheval avec une jambe roide. Je parle et pendant ce temps-là, nous on est accueillis. On nous a donné logement, pris les mules en charge et tout. On me prévient que le baronnet ne me recevra en audience plus tard. Faut dire que Bertrand, il aime bien l'étiquette. J'étais prévenu, mais ça m'étonne toujours. Avec lui, les choses doivent être faites comme il faut. Ça nous change de chez nous, où l'ambiance est un peu plus décontractée. On en profite pour prendre un bain, enfin d'être présentable. L'orbain est plus petit que chez nous, un seul cuvier, et tu n'y tiens qu'à une personne. L'eau est chaude, c'est déjà bien. Lavé, pouponné, je visite les lieux. Première impression, c'est propre et bien rangé. On balaye la cour d'honneur, les gardes ont une espèce d'uniforme. À part ça, c'est comme chez nous. Poules, cochons et autres sont chez eux. Du pont-levis, je peux voir le guet. Une cabane fortifiée en bois avec 2 gardes en protège l'accès. En discutant avec eux, j'apprends qu'il y a eu un meurtre dans la seigneurie voisine. Je leur raconte la mort de Riton. Le séjour chez Bertrand le Pleute sera des plus agréables. Première soirée mondaine. Le maître des lieux s'avère très cultivé. Et en fin de soirée, il nous dévoile le programme du lendemain. On commencera par la visite du moulin avec pique-nique champêtre, si le temps le permet. Le temps le permit. Le surlendemain, visite aux mines en compagnie des dames du château qui seraient férues de métallurgie. La suite va nous démontrer qu'il n'y a pas que le travail des mines qui intéresse ces dames. Entre les 2 soirées en famille, le repas de gala aura lieu après la visite aux mines. Bertrand fait venir exprès une compagnie de saltimbanques pour l'occasion. Je le concède, le Bertrand, il est un peu dans le paraître, ce qui amuse beaucoup la reine Frédérine quand ça ne l'énerve pas. Vous venez d'écouter Jour à neige, jour à peine sur Radio Bartas.